Bonjour à tous. Gilles Boyer, vous avez collaboré avec Alain Juppé, Édouard Philippe, vous avez exercé un mandat de député européen. Vous connaissez donc parfaitement les arcanes, les antichambres, les conciliabules, les petites et grandes trahisons du microcosme des politiques. Avec ce vécu de ce milieu, vous présentez ici un ouvrage de fiction historique d'Uchronie. Ah, j'ai découvert le mot Uchronie.
Ah, oui.
Une petite définition, une ligne d'Uchronie du...
Alors, l'Uchronie, c'est la réécriture du passé à partir d'un événement qui ne s'est pas passé dans le roman comme il s'est passé dans la vraie vie.
Et ben voilà, et cet événement, c'est le Petit Clamart. On est en été 1962, un commando pro-Algérie française, proche OAS, avec Bastien Thierry à sa tête, mitraille la voiture du président Charles de Gaulle. De Boissieu lui crie « à terre ». De Gaulle dira « cette fois, c'était en Jean ». Et Yvonne dira « nos poulets n'ont rien eu ». Ça, c'est la réalité historique. Bon, ça, c'est l'histoire. L'histoire. Oui. Mais vous, Gilles Boyer, vous faites mourir le président de Gaulle. Bon, on pourrait se demander de quel droit, déjà.
Quel culot,
quand même, hein, quelle audace.
Oui.
Hein. Vous faites mourir le président de Gaulle, on est donc en 1962, et alors, on entre en fiction. Qu'est-ce que vous voulez décrire dans ces circonstances-là?
Bon, d'abord, ce jour-là, le coup est passé près. Hein. Il s'en est fallu de quelques centimètres pour que le général et son épouse périssent sous les balles des terroristes. Si vous allez à Colombey-les-Deux-Églises, au mémorial, vous voyez la déesse du président, ce jour-là, avec les marques de balles, la déesse criblée de balles. Et on voit que vraiment, le coup est passé très près. Et donc, je me suis en effet permis d'imaginer ce qui se serait passé si. Alors évidemment, faire mourir le général, c'est pas facile. Il faut d'abord se donner la permission. Mais une fois qu'on l'a fait, on se rend compte du vide que ça aurait créé dans la 5e République, qui était une 5e République naissante, pas encore stabilisée du tout. On est en 1962, la guerre d'Algérie vient de se terminer, la 5e République vient de se créer. Le général de Gaulle a repris le pouvoir en 58, et on s'aperçoit à quel point la disparition soudaine aurait créé un vide immense dans la vie politique et dans la vie sociale.
Et surtout, on n'est pas encore à la 5e République du suffrage universel pour l'élection du président de la République, ce qui justement alimente finalement tout ce que vous allez décrire derrière, parce qu'il va falloir remplacer le général de Gaulle. Juste rappeler quand même que le général de Gaulle, c'est pas la première fois qu'il échappe à un complot. D'ailleurs, vous commencez pratiquement par décrire ce qui se passe à Pont-de-Seine, en un mot.
Oui, à Pont-sur-Seine, l'année précédente, il y a un autre attentat qui a failli aboutir, avec une bombe qui ne s'est pas déclenchée au bon moment à cause de la pluie, mais il y avait eu aussi de multiples tentatives d'attentats contre le général. À cette époque-là, l'OAS faisait plusieurs centaines, plusieurs milliers de morts sur le territoire français, sur le territoire algérien, et tentait chaque semaine d'attenter à la vie du général. Donc en fait, si ça n'avait pas été cette fois, ça aurait pu être une autre.
Alors nous sommes à la fin de l'été 1962, tous les personnages que vous allez faire vivre sont vrais, Chaban, Pompidou, Guichard, Debré, Monnerville, mais on suit quand même plutôt de plus près ce que j'appellerais la cuisine gaulliste, et c'est plutôt chaud entre eux.
Oui, parce qu'on est dans un moment où Pompidou vient d'être nommé Premier ministre, il est Premier ministre depuis 4 mois, et le moins qu'on puisse dire c'est que les autres barons gaullistes ont un petit peu du mal à accepter que ce professeur de lettres soit passé devant tout le monde. Bon, il n'a pas encore du tout assis sa légitimité aux yeux des barons gaullistes.
Il n'est pas associé non plus à la résistance.
Non, il n'était pas résistant, il n'était pas non plus collabo, hein, je le dis tout de suite.
Bien bon, sûr.
Voilà, mais enfin, il enseignait pendant la guerre. Et donc, du coup, on est dans un moment où le général de Gaulle n'a pas du tout eu à se préoccuper de sa succession et donc n'a pas désigné d'héritier. Et où, par exemple, Michel Debré, qui a été le premier ministre du général entre 58 et 62, peut se dire, au fond, l'héritier, c'est moi qui l'avais choisi en 58. Et donc, pourquoi pas moi? Donc, évidemment, la disparition du général, elle crée un deuil national, un choc national, et elle crée aussi, évidemment, d'emblée, une guerre de succession, dans un moment où l'élection du président au suffrage universel n'est pas encore instaurée, et donc où, par conséquent, on va devoir élire le président avec un collège électoral restreint, comme on le voit aujourd'hui pour nos sénateurs.
Alors, on le voit bien, derrière tout ça, il y a un vrai suspense, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer, et on ne peut pas aller dévoiler ce qui va se passer à la fin. Par contre, ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que plus que dans du narratif, vous utilisez le dialogue, et moi, la question que je me suis posée, c'est comment vous faites parler vos personnages en étant sûr que c'était la façon dont ils pourraient s'exprimer, que ça pouvait être leurs mots, leurs expressions, leur style, parce qu'ils sont tous très différents.
On peut jamais en être sûr, je vais vous dire, et c'est un pari qu'on prend en tant qu'écrivain, et le risque de faire parler des personnages ayant existé, il est toujours périlleux. L'avantage, c'est qu'on n'a pas à créer les personnages parce qu'ils existent. On connaît à peu près leur caractère quand même. On a beaucoup écrit sur eux et j'ai beaucoup lu sur eux.
Vous les avez étudiés aussi à travers les images ?
Oui, bien sûr, on les étudie à travers les images. Et c'est vrai que je ne fais parler aucun personnage aujourd'hui vivant dans mon livre. C'est vrai que c'est l'avantage de se projeter en 1962. Ils ont malheureusement tous disparu.
Ils ne vous en voudront pas.
Non, en tout cas peut-être leurs héritiers. Mais d'ailleurs, je ne crois pas être méchant avec quiconque, d'ailleurs.
Absolument.
J'essaie juste d'imaginer ce qui aurait pu se passer si...
Vous mettez l'accent quand même sur les points forts de caractère de Debré, de Chaban, par exemple. Ceux qu'on retrouvera d'ailleurs plus tard, lors d'autres élections.
Oui, c'est vrai. Mais ce que j'ai voulu dire, c'est que cet événement aurait probablement changé énormément de choses et que des personnalités qui ont joué un rôle de premier plan dans la vraie vie ne l'auraient sans doute pas joué parce que les circonstances sont différentes et qu'à l'inverse, nous aurions vu émerger des personnalités qui, dans la vraie vie, n'ont jamais joué de rôle de premier plan parce que cet événement aurait potentiellement tout changé.
Alors de Paris à Libourne, à Bordeaux, on suit vos personnages vrais, quoi. Alors clairement, sans langue de bois... Tous les petits, c'est toujours difficile hein, quand on s'adresse à quelqu'un qui est dans le
sans
monde politique.
Langue de bois,
sans langue de bois, tous les petits arrangements et coups bas qui échappent aux citoyens. Est-ce que ça se passe vraiment encore comme ça aujourd'hui dans les coulisses? Ou est-ce que à ce moment-là, votre livre ne serait pas une forme de fable où vous mettriez en action, comme le faisait La Fontaine, des personnages d'antan pour mettre en valeur peut-être des travers d'aujourd'hui?
Je vais vous dire, dans tous les mondes professionnels, il y a des coups bas et des choses qui se passent en cuisine qui sont pas très jolies à voir. Et la politique, elle fait pas exception à la règle, simplement c'est beaucoup plus médiatisé que quand ça se passe dans le monde de l'entreprise. Et donc par conséquent, je pense qu'il n'y a pas lieu de le cacher. Cet événement, tel que je l'imagine, crée une guerre de succession. Et donc par conséquent, il n'est pas illogique que lorsque plusieurs personnalités s'affrontent, ça se fasse sur un terrain plus ou moins, on va dire, plus ou moins propre, plus ou moins grand. Voilà. Et donc c'est ce que j'ai voulu montrer. Je ne crois pas que ça salisse particulièrement la politique par rapport à d'autres mondes qu'on pourrait décrire. Simplement, ils le sont moins, c'est vrai, dans les médias, mais je peux vous assurer que dans le monde de l'entreprise, ça n'est pas moins cruel.
Alors, est-ce que vous avez quand même un personnage pour lequel vous avez une sympathie plus particulière? Alors, il y a un personnage dont on n'a pas parlé, par exemple Monnerville, parce qu'on l'a un peu oublié, ce président du Sénat qui, de par la Constitution, devient président de la République à titre provisoire, comme le sera plus tard Poher, d'ailleurs, à la mort vraie, cette fois, du général de Gaulle. Ce Monnerville, pour vous, est-ce qu'il représente en fait l'ancien monde?
C'était un personnage intéressant, et c'était un avocat guyanais qui était devenu président du Conseil de la République et du Sénat, donc pendant plus de 15 ans. Et lorsque le général meurt dans cette hypothèse, dans l'attentat du petit Clamart, c'est lui qui est chargé de faire l'intérim, et qui peut-être se fait des idées, se dit que peut-être il pourrait lui succéder au général et se faire élire, mais c'est un personnage intéressant. On se souvient de lui parce que après le petit Clamart, il a défié le général sur justement précisément la procédure pour élire le président au suffrage universel. Il avait parlé de forfaiture et ça avait créé une rupture définitive avec le général. Mais avant cela, c'était un personnage très respecté de la 4e République et des débuts de la 5e. Et donc j'ai imaginé que dans cette période d'instabilité, il jouait un rôle essentiel, comme Antoine Pinet, qui était le ministre des Finances au début de la 5e République.
J'y vais pas. Le personnage hésitant en permanence. Quoi.
Hésitant, qui a fait le nouveau franc, le sage de Saint-Chamond, mais aussi des personnages qui sont restés un peu au second plan par la force des choses, comme Robert Boulin, qui a connu une fin tragique 15 ans plus tard, ou Olivier Guichard, qui était un collaborateur historique du général. J'étais hier à la Baule, où Olivier Guichard a laissé une empreinte très profonde.
Alors vous expliquez d'ailleurs pourquoi il se tourne vers Saint-Nazaire à un moment dans votre livre.
Oui, c'est d'ailleurs... C'est à ce moment-là, il est d'abord originaire de Gironde, de Néac, et puis il y a trop de monde, il y a Chaban-Delmas, il y a Boulin, et donc il se dit, moi je dois me créer mon territoire, et il va partir, il s'apprête à partir pour la Loire-Atlantique à ce moment-là, oui.
Alors 10 minutes, c'est beaucoup plus court que toute l'histoire de la 5e République, donc... À la fin, on a le résultat des élections, qu'on ne révélera pas,
non, s'il vous
bien
plaît,
évidemment. S'il vous plaît. Mais est-ce que vous pourriez imaginer une suite qui amènerait vos personnages fictifs jusqu'à mai 68, par exemple?
Oui, absolument, je peux imaginer ça, ou même après. Je n'ai pas encore tout à fait décidé à quel moment je vais commencer la suite, mais j'ai à peu près décidé d'en faire une.
Alors,
c'est une bonne nouvelle.
Ah, ça, c'est une, voilà, ça, c'est une information.
Mais je ne sais pas si mai 68 a lieu dans cette hypothèse.
Voilà. Il n'y a plus de Gaulle.
Voilà, il n'y a plus de Gaulle.
De Gaulle est-il responsable de mai 68?
Mais peut-être que mai 68 aura lieu en mai 72, vous voyez, on n'en sait rien. Donc c'est ça l'imaginaire de l'Uchronie.
Et Pompidou, voilà, sera-t-il malade?
Peut-être qu'on guérit la maladie dont il est atteint.
Dans quelle position sera-t-il à ce moment-là? On ne sait pas, il faut lire le livre pour le savoir.
Ce serait bien de lire le livre.
Voilà, c'est super. Merci donc, Gilles Boyer, d'être venu jusqu'à nous pour nous parler de Petit Clamart. Ce roman d'Uchronie que vous proposez aux éditions Jean-Claude Dalthès. Merci à vous.
Merci beaucoup.